Bonjour à tous. À la une ce matin, l'Allemagne frappée à son tour par la vague populiste. Angela Merkel rempile à la tête du pays au lendemain des législatives. Mais l'extrême droite est au plus haut depuis des décennies. Elle envoie une centaine de députés au Bundestag. En France, le Sénat fait de la résistance. La droite remporte haut la main les élections dans la Haute Assemblée. Déception pour La République En Marche qui fait du surplace. Quant aux femmes, elles sont toujours aussi peu nombreuses. La rue va-t-elle abattre la réforme du Code du Travail? Depuis ce matin, ce sont les routiers qui passent à l'action à coups de blocage et de dépôts de carburant. On ira à Marseille dans ce journal. À 8h20, une question. À quand la PMA pour toutes les femmes? Elle l'avait annoncée pour l'an prochain. Depuis, c'est le grand flou. Peut-être le lèvera-t-elle à votre micro, Nicolas. Vous recevez Marlène Schiappa.
La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est au micro d'Inter de 8h20 à 9h. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la pilule ne passe plus. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à la délaisser, nous dit une étude publiée ce matin. Des douaniers harcèlent-ils certains sans-papiers membres de la communauté Emmaüs à Forbach, en Moselle? On ira sur place. Enfin, des slogans et des banderoles pour lui dire de tenir bon face à la maladie. Le Vélodrome derrière son ancien patron Bernard Tapie hier soir à Marseille. Mais d'abord, l'image de la nuit aux États-Unis, des joueurs qui lèvent le poing, d'autres qui posent un genou à terre quand résonne l'hymne américain. Le championnat de foot américain, presque une religion là-bas, a choisi de défier Donald Trump. Le président américain s'était ému que certains joueurs ne respectent pas l'hymne américain pour protester contre les violences contre la communauté noire. Il les a insultés avant d'appeler au boycott. La réponse est donc venue du terrain, ou plutôt de tous les terrains en même temps. 150 joueurs ont bravé le président, c'était le cas notamment à Washington, sous l'œil du correspondant de France Inter, Grégory Phillips.
Quand l'hymne national retentit dans ce stade de 82 000 places, 4 des Washington Redskins posent le genou à terre. Tous les autres joueurs sont debout, serrés coude contre coude. L'équipe adverse, les Oakland Raiders, refuse de se lever du banc de touche. Le mouvement des footballeurs remonte à l'été dernier, quand l'ancien quarterback des San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se met pour la première fois à genoux pendant l'hymne national pour protester contre la mort de plusieurs Noirs tués par des policiers blancs. This has everything to do. Bien sûr que c'est une question de race, affirme RJ. Si on avait un dirigeant qui comprenait la diversité, l'égalité, ça irait, mais ce n'est pas le cas. On s'est tellement battu, dit ce supporter des Redskins, mais une seule personne peut changer la façon dont on voit le monde. Quand il voit son équipe des Raiders rester assise pendant l'hymne national, Mike désapprouve. Le père de famille dit qu'il a voté pour Trump, qu'il soutient une grande partie de sa politique. Comme le président, il ne comprend pas pourquoi les joueurs ne respectent pas, selon lui, ni l'hymne, ni le drapeau. Mais Mike trouve aussi que Trump, avec ses invectives, gère mal ce mouvement. La NFL, la Ligue de football, a elle aussi répondu à Trump hier soir en diffusant à la mi-temps un spot publicitaire, un film de 60 secondes sur les valeurs du sport et appelant à l'unité du pays. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et de Washington, direction Berlin à présent, c'est l'autre grand titre du jour. L'Allemagne rattrapée à son tour par la vague populiste.
Elle y avait échappé ces dernières années, la voilà rattrapée plein fouet. L'Allemagne se réveille donc avec un visage connu et un choc politique. Le visage, c'est celui d'Angela Merkel qui rempile pour un quatrième mandat au lendemain des élections législatives. On va y revenir. Mais c'est surtout la percée de l'extrême droite qui retient l'attention. 13% des voix. Son représentant, l'AfD, devient la troisième force du pays. Elle envoie 90 députés au Parlement, dont l'extrême droite était absente depuis la Seconde Guerre mondiale. Presque une soirée de victoire à Berlin. Et ce ne sont pas les quelques centaines de manifestants anti-AFD qui ont réussi à gâcher la fête. Reportage Julie Pietri.
La scène est à peine croyable. Sur une terrasse, les membres de l'AFD surplombent les manifestants. Ils les narguent, leur sourient, les prennent en photo, leur envoient même des baisers, un verre à la main. En bas, les opposants crient en réponse des slogans « Les réfugiés sont les bienvenus ici, non aux nazis ». C'est une honte, explose ce jeune homme, Jörg, très en colère, très ému aussi. 70 ans après, cette droite entre au Parlement, dit-il, on n'a rien à célébrer, il faut lutter contre ça. Durant toute la soirée, chaque membre de l'AFD qui a tenté d'entrer dans le bar a été copieusement sifflé. Alexander Kolland, co-tête de liste du parti, prend rapidement la parole avant de s'éclipser, de s'engouffrer dans un hall d'entrée gardé par le service d'ordre de l'AFD. Moi, je dis que ces gens ne savent pas ce que sont vraiment les nazis. Moi, j'ai vécu cette période. Quand on voit ce qu'ont fait les nazis, l'assassinat des juifs, la Gestapo, c'était un crime. Nous sommes un parti démocratique qui veut juste une autre politique. Et on se fait traiter de nazis. C'est ridicule. L'AFD, tout jeune parti qui se dit de droite et pas d'extrême droite, a clairement gagné son pari. Sa campagne anti-Europe, anti-réfugiés et anti-islam a fonctionné. Sur les terres défavorisées d'ex-RDA, l'AFD a même dépassé les 20% des voix. À Berlin, Éric Audra, Julie Pietri, France Inter.
Et pour Angela Merkel, la victoire est amère. La chancelière est certes réélue pour un quatrième mandat, comme avant elle Adenauer et Helmut Kohl, mais son parti, arrivé en tête, est au plus bas depuis près de 70 ans. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Berlin, dès ce matin, Angela Merkel va tenter de former une coalition. On sait que ce ne sera plus avec les sociodémocrates du SPD arrivés deuxième. Ils ont jeté l'éponge hier soir. C'est donc vers les libéraux et les verts que la chancelière va se tourner.
Il faudra toute l'intelligence tactique d'Angela Merkel et son sens du compromis pour trouver un terrain d'entente, car sur plusieurs dossiers majeurs, la politique industrielle, les affaires européennes, il y a, il faut bien le dire, un gouffre entre les programmes des trois partis. Un exemple, la transition énergétique sur ce grand projet, sortie du nucléaire, développement des renouvelables. Angela Merkel a trouvé un allié naturel avec les écologistes, mais le parti libéral, le FDP, n'est pas du tout sur la même ligne. Il réclame un coup d'arrêt à la construction d'éoliennes. Pour réussir à s'entendre, chacun va devoir lâcher du lest, y compris les libéraux qui ont mené une campagne très à droite, notamment sur l'Europe, et qui rêvent de décrocher le poste de ministre des Finances. Cette coalition a trois couleurs, noire, jaune, verte. La coalition Jamaïque, comme on l'appelle en Allemagne, n'a jamais été tentée jusque-là. Mais Angela Merkel n'a pas d'autre choix après le retrait des sociodémocrates. Il faut donc s'attendre à des négociations longues et compliquées. Ça pourrait prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, période pendant laquelle les projets français de réforme de la zone euro pourraient bien rester en stand-by.
Voilà pour la coalition Jamaïque. Merci Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
France Inter, 8h07 en France maintenant. Emmanuel Macron rate la marche du Sénat.
Dernier scrutin de l'année hier et première claque électorale pour la majorité. La République En Marche espérait doubler son groupe à l'occasion du renouvellement de la moitié de la Haute Assemblée. C'est perdu, elle perd un siège avec 28 sénateurs seulement. C'est la droite et le centre qui continueront de contrôler le palais du Luxembourg, Karine Bécard.
La défaite pouvait difficilement être plus cuisante pour le président Macron. La République En Marche, qui espérait jusqu'à doubler le nombre de ses sénateurs, en compte finalement moins qu'elle n'en avait initialement. Le revers est sévère. Mais pour l'exécutif, tout cela s'explique. En l'absence de grands élus, de grands électeurs, marcheurs, il était impossible de faire élire en quantité des sénateurs. En réalité, le gouvernement dit peu importe pour faire voter ces réformes et même pour faire passer les futures réformes constitutionnelles. Matignon parie d'ores et déjà sur tous les constructifs de droite et de gauche qui viendront lui prêter main forte. Combien sont-ils ? Aucun chiffre n'est donné, mais le Premier ministre en est persuadé. Le président, lui, du moins officiellement, n'a rien suivi de cette débâcle, car pour Emmanuel Macron, hier, il n'y a que les élections allemandes qui pouvaient avoir vraiment une signification.
Dans le détail, la droite et le centre confortent leur majorité absolue avec 25 sénateurs de plus. Il n'y avait pas le feu derrière. Le PS fait de la résistance, il perd une poignée d'élus, mais reste la deuxième force d'opposition au Sénat. Les communistes parviennent à sauver leur groupe avec 12 élus. Le Front National lui échoue à faire entrer de nouveaux sénateurs. Il conserve ses deux élus. Enfin, pour le rajeunissement et la parité, ce n'est pas encore tout à fait ça. L'âge moyen des sénateurs est quasiment inchangé, un peu plus de 60 ans et on compte à peine 28% de sénatrices. Elles ne sont que 4 de plus que dans l'ancien hémicycle.
Les routiers passent à l'action.
Barrages, blocages et autres opérations escargots. Ils promettent de bloquer la France contre les ordonnances. Le mouvement a débuté à l'aube à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière, mais sans l'appui du leader de FO Jean-Claude Mailly. Les routiers prévoient de bloquer une cinquantaine de sites avec un objectif: empêcher le ravitaillement des dépôts de carburant et donc des stations-service. Des blocages signalés ce matin dans le Nord, en Normandie, en Haute-Garonne ou encore près de Marseille où vous vous trouvez, Olivier Martoc. On se souvient que l'an dernier, le mouvement avait été très suivi chez vous, parfois même très tendu. Disons que c'est un peu moins le cas ce matin.
Ah bah écoutez, ce matin, un seul site bloqué dans le sud-est, l'Amed, l'ancienne raffinerie Total sur les temps de Berre, une usine en cours de reconversion qui fait juste office de dépôt de carburant. Bref, un site pas vraiment stratégique, à la différence, vous l'avez dit Marc, de ceux bloqués en mai 2016 contre la loi El Khomri. Les raffineries de Fos sur mer, dont l'évacuation par les forces de l'ordre avait été plutôt musclée. Alors il n'y a d'ailleurs pas de policiers ici ce matin pour éventuellement déloger les grévistes. Ils sont peu nombreux. 7 camions citernes sont stationnés à proximité de l'entrée. Le piquet de grève est composé d'une vingtaine de militants, pour moitié de la CGT Raffinerie, pour moitié de FO Transport. Les responsables syndicaux présents, dont un descendu spécialement de Paris pour la CGT, sont évidemment un peu déçus de la faible mobilisation. Ils parlent d'un mouvement qui démarre, d'une prise de conscience des routiers sur les menaces que fait peser sur eux la profession. la nouvelle loi travail. Mais le cœur n'y est pas vraiment. Ils sont en ligne avec leurs homologues sur les autres barrages en France et constatent, Marc, que le démarrage du mouvement, comme ici à Marseille, est pour le moins poussif.
Merci Olivier Martoc et pardon pour cette petite coupure dans la liaison. Les automobilistes n'ont pas fini de voir le prix du gazole s'envoler à la pompe. Rien à voir avec le conflit des routiers. Là, ce sont les taxes qui vont augmenter l'an prochain de 10%, rapporte ce matin le journal Les Échos. Conséquence, le litre de gazole va bondir de 8 centimes quand l'essence devrait augmenter, elle, de 4 centimes. Ils n'en peuvent plus et ils le disent. Les membres de la communauté Emmaüs de Forbach en Moselle accusent la police aux frontières de les cibler lors des contrôles. La moitié des compagnons d'Emmaüs sont sans papier et l'association affirme que ces camions de ramassage sont particulièrement visés. Cécile Soulet.
Il ne veut pas donner son nom parce qu'il n'a pas de papier, mais cet Algérien de 29 ans accepte d'expliquer pourquoi il ne veut plus monter dans un camion Emmaüs où il travaille comme compagnon.
Il y a mes collègues qui se font déjà arrêter, donc c'est pour nous, on s'inquiète aussi. On évite le camion au maximum. Pour nous, c'est un risque. Je suis pas tranquille, je suis toujours stressé.
Sans vouloir en dire plus, la PAF dément tout ciblage spécifique des camions Emmaüs, mais l'association maintient que depuis 3 semaines, ces véhicules de ramassage sont régulièrement contrôlés. Les compagnons sans papier sont arrêtés, puis contraints de quitter le territoire. Une situation qui révolte le président d'Emmaüs Forbach, Gaston Weber.
Humainement, c'est terrible quoi, de voir ces choses-là. Les gens qui travaillent chez nous, ils ont peur, ils tremblent. Parfois, j'en ai vu pleurer. D'autre part, économiquement, ça nous pose beaucoup de problèmes. Parce que si les gens ne peuvent plus rouler les camions, comment on fait les ramassages ?
L'association est d'autant plus étonnée que c'est la première fois que ça se passe comme ça.
Quand on pense que dans les années 82, la communauté Emmaüs, elle se trouvait juste en face du commissariat. Et c'est les agents de police qui venaient nous aider à démarrer les voitures en hiver.
Emmaüs revendique le droit d'accueillir des compagnons étrangers sans papier, un accueil inconditionnel qui est une valeur de l'association, mais qui se heurte à la politique d'immigration.
L'état de droit d'un côté, la menace terroriste de l'autre, c'est l'équation du jour à l'Assemblée où les députés examinent le projet de loi qui doit tourner la page de l'état d'urgence. Le texte devrait inscrire dans le droit commun quelques-unes des mesures mises en place depuis 2 ans. Les assignations à résidence seraient désormais limitées à 1 an. Avec obligation de pointer au commissariat une fois par jour au lieu de 3 aujourd'hui, les préfets pourront fermer des lieux de culte pendant 6 mois en cas d'apologie du terrorisme.
8h12, la pilule ne passe plus.
Longtemps, elle a été un signe de la libération des femmes et du contrôle des naissances, mais la pilule contraceptive n'a plus la cote. C'est ce que confirme une étude publiée ce matin menée par l'organisme Santé Publique France. La crise des pilules de 3e et 4e génération est passée par là. Résultat, en l'espace de 6 ans, le nombre de femmes qui l'utilisent est passé de 45 à 36%. Et ce sont les plus jeunes, Véronique Julia, qui la délaissent le plus.
Chez les 25-30 ans, elles étaient 58% à utiliser la pilule en 2010. Elles ne sont plus que 48% aujourd'hui. Anne a 27 ans, elle est dans la tendance. Pour elle, la pilule, c'est fini.
Je suis un peu contre tout ce qui est hormones. Et puis, vu tout ce qu'il y a eu, qu'il y avait des dangers, j'ai décidé de laisser mon corps tel qu'il était.
Méfiance pour les hormones, volonté de retour au naturel. Et Louise Galili est conseillère au planning familiale de Paris. En l'espace de 6 ans, elle a constaté, elle aussi sur le terrain, ce regard de plus en plus critique sur la pilule.
Il y a eu un impact des scandales pilules de 3e et 4e génération. Avant, on s'interrogeait moins. Aujourd'hui, les femmes se posent des questions, se positionnent aussi en actrices de plus en plus de leurs choix contraceptifs. Elles ont envie de comprendre quels sont les risques qu'elles prennent, etc.
Mais la crise des pilules de 3e et 4e génération n'est pas seule en cause. Pour plein d'autres raisons, les Françaises veulent sortir du tout pilule qui prévalait jusqu'à récemment. Elles cherchent aujourd'hui à explorer de nouvelles méthodes. Héloïse Galili.
Il y a aussi la contrainte que représente le fait de prendre tous les jours un comprimé à la même heure. Il y a aussi un discours féministe de se poser la question de pourquoi est-ce que ce serait à la femme seule de porter la responsabilité d'éviter une grossesse. C'est multifactoriel finalement.
Les choix se reportent sur l'implant, le patch, le préservatif et surtout le stérilet. Si la pilule perd du terrain, les Françaises restent attachées à l'usage des contraceptifs. Près de 90% des 15-49 ans y ont recours, un chiffre en légère augmentation depuis 2010.
Étude complète à retrouver sur franceinter.fr. Une victoire et un hommage hier soir au stade Vélodrome. Victoire de l'OM 2-0 aux dépens de Toulouse. Victoire qui permet aux Marseillais de revenir à la 5e place de la Ligue 1. Mais la soirée a été marqué également par la ferveur des supporters qui ont affiché leur soutien à l'ancien patron du club, Bernard Tapie, qui lutte en ce moment contre un cancer. Des slogans, des banderoles et des messages de solidarité, Tony Cellier.
Et son nom, Bernard Tapie, les supporters marseillais l'ont scandé à plusieurs reprises. Des chants donc, mais aussi des banderoles, comme celle des Yankees Virage Nord. On pouvait y lire « Bernard a jamais le premier ».
On pense beaucoup à sa famille, mais c'est vrai que c'est un président qui nous a fait rêver, quoi.
Et cet OM, Laurent est tombé dedans quand il était petit. Il est maintenant proviseur en Ardèche.
Ça touche parce que ça me renvoie à la période où je venais déjà au stade quand moi j'avais presque l'âge de mon fils. Oui, ça touche. Comme quand Dreyfus est décédé, ça m'a touché aussi.
Paul, lui, est abonné chez les Ultras. Il veut garder, quoi qu'il arrive, l'image d'un homme que rien ou presque ne pouvait arrêter.
Invincible, non, mais très fort. Après, que les gens soient riches ou pas, le cancer, il est pour tout le monde.
Alors Bernard Tapie, l'OM, le cancer, pour toutes ces raisons, ses supporters marseillais se sentent aujourd'hui touchés.
Malheureusement, j'en ai eu un cancer, là. C'est le destin, c'est la vie. Le gosse abattant, il va essayer d'en revenir.
C'était le boss. Personne n'est invincible contre la maladie, malheureusement, mais bon, tout le peuple marseillais va être derrière lui, là.
Et dans son combat contre le cancer, ses supporters lui demandent aussi de rester fidèle à l'image qu'ils ont de lui. Un message résume tout, celui des winners en virage sud, comme une invitation et même un ordre, je cite, « Bernard, dans cette épreuve, reste le boss ».
Elle avait partagé l'affiche avec Rému, avec Gabin ou plus récemment avec Depardieu, la doyenne des comédiennes françaises. Gisèle Casatzu est morte à 103 ans, femme de cinéma, de théâtre également. Elle a été passée par la Comédie française avant de décrocher un Molière d'honneur au début des années 2000.
Merci Marc Fauvel.